Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Mais on va continuer sur les fondements. Et je vous ai annoncé qu'on continuerait un peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres. Et on va venir sur un passage très connu de ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Et on va pouvoir s'attarder dessus. Je vous rappelle on est sur cette étude depuis un certain temps et que il est important que on puisse vraiment se baser sur ces choses. Je pense que l'Église est devant quelque chose qui va se passer. Et c'est pour ça que le Seigneur veut d'abord qu'on repose les fondements. Hein, conformément à ce texte d'Ésaïe 54, qui est la vision de notre Église, hein, il dit élargis l'espace de ta tente, mais il dit affermis les pieux. Et là, nous voulons affermir les pieux, parce que nous croyons que la tente va s'élargir grandement. Amen. Vous êtes dans cette vision, mes frères et sœurs? Amen. Nous voulons l'être. Donc, nous sommes sur le livre des Actes des Apôtres, donc. Nous avons commencé à voir un peu tout ce que nous enseigne ce livre sur ce que sont les fondements de l'Église. Et on a vu, bien sûr, que quand on parle du livre des Actes des Apôtres, un fondement important, c'est le Saint-Esprit et son rôle indispensable dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Et le Seigneur veut nous le donner si on lui demande. C'est écrit. Hein. On a vu un deuxième fondement, qui est celui de la croix. Ce qui s'est passé à la croix lorsque Jésus a été crucifié, c'est fondamental. Hein, nous ne pourrions pas être là comme nous l'avons fait ce matin, à louer le Seigneur, les bras levés, nous approcher de lui, lui parler comme ça, sans aucun filtre, s'il n'y avait pas eu la croix. Parce que à cause du péché, on avait interdiction de s'approcher de Dieu, sous peine de mort, parce que Dieu ne supporte pas ce qui est impur. Mais parce qu'on est purifié par le sang de Jésus, on peut s'approcher de lui maintenant. Donc la croix, ça a tout changé dans la relation entre nous et Dieu. Et puis la dernière fois, on a parlé de la repentance, qui est une base aussi, un fondement dans la vie chrétienne. On a vu ce qu'est la repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est la première question. On a vu que c'était d'abord une conviction de péché à l'écoute du message de la croix, en entendant ce que Jésus a fait pour nous. On est convaincu qu'on est pécheur et qu'on a besoin qu'il nous sauve de notre état. La deuxième chose, c'est ben, une fois qu'on a réalisé ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande sincèrement pardon pour ses péchés. Nous sommes tous pécheurs. Ne vous dites pas, ah, moi, je ne suis pas concerné. Merci beaucoup. Ne dites pas, je ne suis pas concerné. Nous sommes tous pécheurs, c'est l'apôtre Paul qui le dit. De toute façon, c'est comme ça depuis le péché d'Adam et Ève. Hein, et le psalmiste David, il dit, je suis né dans le péché. C'est-à-dire que dès l'enfance, on l'a vu la dernière fois, on n'apprend pas à un enfant à dire des gros mots. Ses parents ne lui ont pas enseigné à dire des gros mots. On ne l'a pas enseigné à mentir, lui ont pas enseigné à faire des caprices. On n'apprend pas ça aux enfants, mais ils le font. Par contre, on leur apprend à être poli, mais là, c'est compliqué. Hein, vous avez remarqué ça, vous aussi? Moi, pas moi, quand j'étais enfant, t'es nickel. Puis on a vu dans un deuxième temps, qui doit se repentir? Qui doit se repentir? Alors on a l'impression que c'est les vilains pécheurs, ah, vous vous repentiez, mais en fait, oui, d'abord, les premiers qui ont à se repentir, c'est ceux qui sont loin de Dieu. Mais les chrétiens aussi ont besoin de se repentir. Ok? Celui qui est loin de Dieu. Les chrétiens aussi. Merci, ça y est, on s'est reconnecté. On a vu aussi, on a terminé là-dessus. Donc, c'est important quand on commence la vie chrétienne qu'il y ait eu au départ cette conviction de péché, de notre état. C'est pas, oh, je suis convaincu que j'ai menti hier, je suis convaincu que j'ai fait une bêtise l'autre jour, je suis convaincu que j'ai fait une. Non, c'est je suis pécheur, c'est un état en fait. Si j'ai pas Dieu, ce que je vais faire, ça va pas être bon. Il faut que je sois convaincu de ça. Et si je suis convaincu de ça, il y a une deuxième chose dont je dois être convaincu, c'est que Dieu me pardonne. D'accord? Parce que sinon, on vit tout le temps en disant, ah, mais je suis un nul, je suis nul, je suis nul, j'arrive pas à être un bon chrétien. Et on va pas s'en sortir. Dieu nous pardonne. Ne profitons pas de ça. Ne profitons pas de ça, mais voilà, Dieu veut nous pardonner. On lit ensemble ce fameux verset, Actes chapitre 2, verset 42, que vous connaissez. Ils persévéraient, donc ils, c'est les premiers chrétiens qui viennent de se convertir, alors que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il nous est dit que 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Et il est dit que voilà ce qu'ils faisaient, ces premiers chrétiens. Il y a plusieurs choses qu'on voit ici. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On a ici souvent, on prend ce texte et on dit ce sont les quatre piliers de la foi chrétienne. Et moi, je vous dis qu'il y a cinq piliers dans ce verset. Et on va les voir ensemble. Cinq piliers, on va en voir deux ce matin, on en verra deux autres la fois d'après. On terminera sur le week-end d'église sur le thème de la prière parce qu'il est dit les prières. Pas la prière, mais les prières. Ok ? Alors, on voit ces cinq piliers. Allez-y, allons-y. Premier pilier dont on ne parle pas, c'est la persévérance. Et on va voir que c'est important. Premier pilier, il persévérait, la persévérance. Deuxième pilier, l'enseignement des apôtres. On a besoin d'être enseigné, ok? On n'est pas à dire je sais tout, j'ai tout compris. On a besoin d'être enseigné. Ensuite, la communion fraternelle, j'ai besoin de me réunir avec mes frères et sœurs. Tout seul, je suis en danger. Dernier point, avant-dernier point, pardon, fraction du pain, c'est ce qu'on a fait ce matin. Partager la scène, c'est important, on revient au fondement de la croix, tout simplement. Quand on commémore le sacrifice de Jésus, mais c'est un élément essentiel de la vie de l'Église, la Sainte Cène. Et puis le dernier point, les prières. Ça va? C'est bon? Donc on commence par le premier point, qui est celui de la persévérance. La persévérance, savez-vous que la persévérance, c'est une espèce en voie de disparition? Vous avez remarqué ou pas? On nous parle des animaux qui disparaissent, et ça nous émeut parce qu'on aime les animaux. Mais il y a plein d'autres choses qui disparaissent. Et la persévérance, c'est une espèce en voie de disparition. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et ne dites pas, oui, oui, les gens sont plus persévérants aujourd'hui. Non, non, dites, je ne suis pas persévérant. Trop facile d'envoyer sur les autres. On a du mal à persévérer, oui ou non? On dit, ouais, je vais faire, m'engage. Bon, je ne reviens pas sur ce qu'on dit tous les débuts d'année. Hein. Cette année, je vais. Et puis derrière, quand on fait le bilan à la fin de l'année, bon, des fois, il y a des choses qu'on a faites. Mais on va lire ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 35 à 37, parce que vous le savez, j'aime bien m'appuyer sur la parole. Ce n'est pas le discours d'un homme que vous écoutez, mais vraiment, je veux que ce soit la parole de Dieu qui nous interpelle ce matin. Voilà ce qu'il est dit. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Amen. Amen. » Nous sommes ici sur terre pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Si on a compris ça, on a tout compris. Après, ce n'est pas gagné quand on a compris. Hein. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile, ce n'est pas inné. Mais déjà, si on l'a compris, c'est bien. Mais si on veut faire la volonté de Dieu tout le temps, il nous faut une grande dose de persévérance. On sera vite distrait, on sera vite détourné de la voie. Et on doit persévérer. Pourquoi persévérer? Parce qu'on va toujours être en échec. Le seul qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu à chaque seconde de sa vie, c'est Jésus. Nous, s'il y a quelqu'un qui peut se lever et dire ici, toutes les secondes, je fais la volonté de Dieu, qui vienne me voir, je vais le remettre un peu au niveau où il doit être. On s'égare tellement de fois. Mais on a besoin de persévérer en disant, bon, ah, je me suis égaré, allez, je reprends, je veux faire la volonté de Dieu. Je me suis égaré, ah, je veux faire la volonté de Dieu. On revient toujours là-dessus. Ça, c'est la persévérance. Amen. Et on doit avoir cet état d'esprit, ne jamais se relâcher, mes frères et sœurs. Ne vous découragez pas, soyez persévérants. Parce qu'au bout, L'auteur de l'Épître nous dit, il y a la promesse. Il y a une promesse pour ceux qui persévèrent. Amen. Dans Matthieu 10, 22, regardez ce qu'il est dit. On est en train de commencer à le vivre dans notre pays. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est ça la promesse. La promesse, c'est le salut. La promesse, c'est d'abord l'épanouissement ici sur terre. Si je fais la volonté de Dieu, je suis épanoui. Quand je fais ce que Dieu me demande, je suis épanoui, je suis bien. Quand je suis à côté, cherchez pas, hein, quand vous ne vous sentez pas bien, que ça pas, la plupart du temps, c'est que vous êtes à côté de ce que Dieu attend de vous. Persévérez pour entrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. On le voit dans Hébreux 12, dans la même épître, au chapitre 12, les versets 1 à 2, la première partie du verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire le plan de Dieu pour notre vie. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. On doit persévérer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On revient à la volonté de Dieu. Et ici, l'auteur nous précise une chose importante qui va nous aider à persévérer, c'est avoir les regards fixés sur Jésus. Amen. Les regards fixés sur Jésus, c'est très important. Si on commence à regarder en bas, c'est fini. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre qui marche sur l'eau, hein ? Tant qu'il regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Dès qu'il a commencé à regarder qu'il y avait des grosses vagues, du vent et tout ça, boum, il a coulé. Et en fait, c'est un résumé de notre vie, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on ne regarde pas Jésus, on coule. Il n'y a personne qui arrive à traverser cette vie en faisant la volonté de Dieu sans regarder à Jésus. Ce n'est pas possible. Et je vous invite vraiment à fixer vos regards sur Jésus en étant des hommes, des femmes de prière et des hommes, des femmes qui aiment être au contact de sa parole. De Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » On parle beaucoup de combat, « Ah Seigneur, ah le combat, ah frère, si vous saviez les combats spirituels. » Vous savez le vrai combat c'est quoi ? C'est garder la foi. C'est ça le vrai combat. Le diable, il nous amuse avec plein de combats qu'on a à mener. Alors que Jésus a remporté toutes les victoires sur la croix. Mais le combat de la foi, c'est nous. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Mais Jésus dit qu'est-ce qu'il trouvera la foi quand il reviendra ? C'est lui qui pose cette question. Il la trouvera chez ceux qui auront persévéré, comme l'apôtre Paul, qui est content à la fin de sa vie de dire « J'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Cette notion de persévérance, je m'arrête dessus, je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. On va la retrouver dans les quatre autres points pour être... Quelqu'un qui aime écouter l'enseignement de la parole, il faut être persévérant. Pour vivre la communion fraternelle, il faut être persévérant. Pour penser à la croix, au sacrifice que Jésus a fait pour nous, il faut être persévérant, parce qu'on est oublieux. Et pour être des hommes, des femmes de prière, il faut être persévérant. Donc c'est pour ça qu'il me paraît important de dire qu'il n'y a pas quatre piliers, mais il y en a cinq. Et que ce pilier de la persévérance, il est important. Si tu n'es pas quelqu'un persévérant de nature, ne t'inquiète pas, tu demandes au Seigneur de te remplir de son esprit. Vous savez, on voit des choses extraordinaires. Hein. Des gens qui ne sont pas, à partir du moment où ils se convertissent, ils le deviennent. Des gens qui ne sont pas patients, deviennent patients. Des gens qui se mettent en colère, ils deviennent calmes. Des gens qui sont mous, ils deviennent dynamiques. Oui. Seigneur, fais tout ça, transforme nos vies, amen, que son nom soit béni. Donc si tu n'es pas persévérant, ne t'inquiète pas, tu demandes à Dieu de te donner d'être persévérant Il va le faire. Il va te donner d'être persévérant parce que si on peut ne pas être persévérant quand on a décidé de faire du sport ou de maigrir ou de je ne sais pas quoi, ce n'est pas grave. Mais si on n'est pas persévérant dans les choses de Dieu, c'est grave. C'est grave. Et on doit en être bien conscient. L'enseignement des apôtres, deuxième point. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que votre chair vous dit tous les matins, lève-toi de bonne heure pour lire la Bible? Moi, ma chair, elle me dit pas ça. Elle me dit, mets un bon coup de pied au réveil et dors un peu plus. Le soir, quand je rentre, ma chair me dit, mets-toi sur le canapé. Ouh, souffle un peu. C'est ça. Donc si je ne suis pas persévérant, l'enseignement des apôtres, ça ne fera pas partie de ma vie. Je vous rappelle que quand on a étudié le livre de Néhémie, le chapitre 8 du livre de Néhémie, je ne sais pas si vous vous rappelez, le titre de la prédication ce jour-là, c'était « Imbibé ». Vous vous rappelez, avec les éponges là ?« Imbibé ». Est-ce qu'on est imbibé de la parole ? C'était ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est là en nous, qui nous traverse, comme le dit le psalmiste, il médite jour et nuit la parole, jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de lire tout jour et nuit, mais dans toute sa journée, il pense à la parole de Dieu. Il revient sur ce qu'il a entendu, il médite. Les gens qui progressent dans la foi, c'est ceux-là. Ce n'est pas ceux qui viennent écouter une prédication, qui repartent, et puis vous leur demandez 3 jours après, alors c'était quoi la prédication ? Eh oui, persévérer, c'est pas naturel. Hein. C'est pas naturel de se rappeler des prédications de la semaine dernière. Mais pour celui qui persévère, qui reprend ses notes, qui réécoute sur le site, c'est le Seigneur qui nous parle. Moi, j'ai connu une personne, elle notait même les dons spirituels pour les relire la semaine. Parce qu'elle voulait rien perdre de ce que Dieu disait à l'Église. Moi, je trouvais ça beau, je trouve que c'est bien. Il est parlé ici de l'enseignement des apôtres. Je veux être clair là-dessus. Pourquoi il est précisé l'enseignement des apôtres ? Parce que les apôtres en question, ce sont les 11 personnes qui ont côtoyé Jésus. Ce n'est pas 11 personnes qui ont entendu parler de lui. Ce n'est pas 11 personnes qui ont eu des nouvelles par là, etc. C'est 11 personnes qui ont côtoyé Jésus. Donc, d'après vous, de quoi ils parlaient dans leur enseignement ? Ils parlaient de leur enseignement à eux ? De leurs opinions, de leurs convictions, de leur doctrine, de leur théologie ? C'est de ça qu'ils parlaient aux gens ? Ils parlaient de ce qu'ils répétaient, ce que Jésus leur avait enseigné. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'enseignement des apôtres ? Ça veut dire l'enseignement de Jésus. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et ce à quoi nous devons nous attacher, c'est l'enseignement de Jésus. Pas l'enseignement d'un apôtre, d'un homme. Que ce soit quelqu'un dans l'Église ou que ce soit quelqu'un sur la toile. Il y a des gens, c'est des adeptes de tel apôtre, tel prédicateur. Ils écoutent toutes ces prédications sur YouTube, c'est bien. Hein, c'est Jésus que nous voulons écouter, mes frères et sœurs. Donc on peut le faire de deux manières. Il y a l'écoute de l'enseignement des apôtres. On lit ensemble Éphésiens 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Un beau challenge. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? En fait, c'est Dieu qui a voulu l'église locale, on le verra quand on parlera de la communion fraternelle, et il a donné à l'église locale des ministères. Et s'il a donné des ministères à l'église locale, c'est pas pour qu'ils se mettent sur l'estrade devant une salle vide. C'est pour que les gens qui font partie de l'église locale viennent écouter les ministères que Dieu a donnés à l'église. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà, donc vous allez tous venir tous les dimanches et tous les mardis soirs. Oui, sauf problème de force majeure. Mais je vous assure, c'est pas une blague. Hein. C'est la persévérance, c'est ça en fait. On discutait avec certaines personnes de l'ancienne époque, parce que je suis un vieux. Mais moi, il n'y avait pas dans nos églises des cours de disciples comme on fait aujourd'hui. On fait des cours aux gens maintenant pour leur enseigner la vie chrétienne. Moi, je n'ai jamais eu de cours de disciples. Mais j'étais à toutes les réunions de l'église. J'en loupais pas une. Je ne loupais pas une réunion. Bon, après, comme tout le monde, je pouvais être en vacances de temps en temps ou exceptionnellement louper une réunion. Mais chaque fois que je pouvais, j'étais là pour être enseigné. Et c'est une chose, vous voyez, qui s'est complètement perdue. Et c'est pas seulement à Colomiers. Les salles, nous on a connu les salles pleines. Et en plus, nous on n'avait pas qu'une réunion par semaine, on en avait deux. Il y avait un soir où il y avait la réunion d'études bibliques et un soir où il y avait la réunion de prière. Et ces réunions étaient pleines. Il y avait autant de monde que le dimanche matin, quasiment, peut-être un petit peu moins. Les enfants étaient là. Les enfants étaient là. Des enfants sont là le mardi soir. Et j'encourage vraiment les familles qui viennent avec leurs enfants. Comme quoi, ce n'est pas impossible. Ah non, ce n'est pas possible, j'amène mes enfants le mardi soir, ils ont école le lendemain. Ouais, quand je vois à quelle heure ils se couchent maintenant avec les téléphones portables et tout. Voilà. Mais je pense que c'est un état d'esprit qu'on doit retrouver. Un amour de la parole. Une soif d'être enseigné. Moi, je vous assure que je vois passer des trucs de séminaires et tout ça. Je me dis, mais si j'avais le temps, je voudrais aller à tous les séminaires d'enseignement de la parole. Je voudrais encore plus être enseigné. Pourtant, je connais la parole. Je suis pasteur. Je suis loin de la connaître parfaitement, mais je connais beaucoup sur la parole, mais j'ai tellement soif de connaître encore plus. Chaque fois qu'on se réunit entre pasteurs dans les conventions, les pastorales, je me réjouis de ce que je vais être enseigné. Mes frères et sœurs, il faut qu'on retrouve ça. Ce qu'on a perdu, il faut qu'on le retrouve. Il n'y aura pas d'élargissement de la tente sans les fondements. Moi, je vous le dis franchement, sans amertume, croyez-le bien, mais j'ai mal au cœur quand je vois une nouvelle personne qui vient le mardi soir. Vous savez combien on est le mardi soir ? On est entre 15 et 20 personnes. On commence la réunion, des fois on est plus nombreux sur l'estrade que dans la salle. Quelqu'un qui vient pour la première fois, vous vous rendez compte l'image qu'il a de l'Église ? Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Moi, j'ai rien à gagner. Hein. Vous le savez, cet été, pour moi, je passe la main après. Mais j'ai vraiment à cœur, justement, j'ai ce fardeau de pouvoir transmettre quelque chose où les fondements sont là. Et je vous encourage vraiment à y réfléchir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas du tout, je ne vous tire pas les oreilles, je ne vous fais pas la morale. Je le dis vraiment de la part de Dieu parce que je pense que c'est important pour chacun de nous et pour l'Église. Et puis, la deuxième dimension, c'est d'apprendre à sonder soi-même les Écritures aussi. Il n'y a pas que les réunions. Et si au début, on va avoir besoin des réunions, ensuite, petit à petit, on va toujours conserver les réunions, mais on va avoir envie de chercher par soi-même. Nécessité d'approfondir par soi-même. L'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 25, nous dit ceci, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il est parlé de celui qui plonge ses regards dans les Écritures. Est-ce que tu le fais, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu prends la Bible et tu plonges tes regards ? Et tu demandes au Seigneur de te parler. « Oh, pasteur, j'ai essayé, moi, j'y comprends rien. » Ouais, mais normal. Mais tu as peut-être oublié avant de lire de dire « Seigneur, par ton esprit, ouvre mon intelligence pour que je comprenne ce que tu veux me dire. » Et puis, on l'a vu, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Christ. Donc, prenez la Bible et lisez les évangiles. Le début du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous avez l'exemple, parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement les paroles, c'est aussi comment Jésus a vécu, comment il a réagi aux situations, ce qu'il a fait. Et puis, l'enseignement qu'il donne. Le sermon sur la montagne, c'est d'une richesse. Des choses qu'il faut qu'on étudie. Et je vous encourage à le faire. Achetez, il y a des bibles. Il y a des bibles d'études, où il y a des petites annotations, où on vous explique, on vous aide à comprendre. Ayez soif. Ayez soif de le faire. Le Seigneur m'a béni en me donnant cette soif dès mon plus jeune âge. Et bien avant d'être pasteur, je faisais mes études bibliques personnelles. Dieu m'a donné cette soif. Et beaucoup avaient cette soif. Et je prie que cela revienne, vraiment. Parce qu'il y a une nécessité d'approfondir par soi-même, il y a une nécessité de grandir en maturité. Je vous ai mis une image, deux images, regardez. C'est quoi la différence entre les deux images ? C'est quoi la différence ? Vas-y, Clara. Ah, une fille et un garçon, c'est vrai. Dolès. Voilà, il y en a un qui mange avec quelqu'un qui lui donne, l'autre il mange tout seul. Et on est appelé à ne pas rester sur la photo de gauche. C'est-à-dire, je viens à l'église, j'écoute. Je prends la pensée du jour, j'écoute. Et c'est tout. Ça se résume à ça, ma vie. Alors au début, oui. Mais petit à petit, comme un enfant, au début c'est normal qu'on lui donne la cuillère. Si vous venez d'avoir un petit enfant, un nourrisson, ne lui tapez pas dessus parce qu'il ne mange pas tout seul. C'est normal. C'est normal. Donc nous, on n'est pas là à dire aux nouveaux convertis, alors quoi, tu ne manges pas tout seul? Non, tu veux. Petit à petit, les choses se font. Mais quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis 30 ans et qui est encore à la cuillère, il y a un problème. Non? Oui. Je ne sais pas si vous étiez en train de donner à manger à la cuillère à votre conjoint. Oh, j'ai pas envie là. Tu peux me donner à manger, s'il te plaît? Vous trouverez ça bizarre quand même. Mais nous, on a le droit d'être bizarre. Moi, on est encore entré à la cuillère au bout de je ne sais pas combien d'années de conversion. Et on trouve ça pas gênant. Que le Seigneur nous aide. Par contre, pour la nourriture spirituelle, je ne suis jamais complètement autonome. C'est-à-dire que je vais continuer à venir là où on me donne à manger. D'accord ? Vous savez, les analogies ne sont pas toujours parfaites. Hein. Donc il faut passer d'un stade à l'autre, mais ce n'est pas parce qu'on se nourrit tout seul qu'on n'a plus besoin d'être enseigné. Il faut les deux. D'accord ? Ok ? En parlant de nourriture concernant la parole... Je terminerai avec ceci. C'est une chose que je dis régulièrement ici, mais je veux le répéter pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Lorsque vous arrêtez, on dit que la Bible, la parole, c'est une nourriture pour notre âme. D'accord ? Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Ma parole, c'est comme un pain pour vous. Ça nous nourrit. Si vous ne mangez pas, je parle sur le plan physique. Si vous ne mangez pas pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dépérir et au bout d'un moment, vous allez mourir. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si vous ne vous nourrissez pas, Au bout d'un moment, vous allez mourir. La seule différence, c'est que bah, physiquement, quand on est mort, ça se voit. Spirituellement, on peut être mort et continuer de venir à l'église. Alléluia, et on vient, on est là. Mais en fait, on est mort parce qu'on ne se nourrit plus. La parole de Dieu n'a plus de place dans nos vies. On a juste la petite prédication du dimanche. Et encore, on n'est pas là tous les dimanches, donc ça ne fait pas beaucoup à manger. Hein. Donc je vous encourage, hein, dans la prière du Notre Père, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ce pain, ce n'est pas le pain que vous avez dans votre assiette, dans la corbeille. C'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Lisez tout le chapitre 6 de Matthieu et vous verrez que c'est de la parole spirituelle qu'il est parlé et pas du pain qu'on mange. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Je conclus ces moments. Nous sommes appelés donc à persévérer. Il y a cette image que j'ai mise de cet homme qui est en train de gravir une paroi montagneuse. Et ça m'a fait penser à ce texte de Matthieu, chapitre 16, 7, versets 13 à 14, où Jésus dit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, resserré ou escarpé le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. OK? En fait, pour marcher sur le chemin étroit, il faut beaucoup de persévérance. Ceux qui font de la rando, quand vous marchez sur du plat et que la rando n'est pas trop longue, pas trop besoin de persévérance. Si vous commencez à prendre un sentier de montagne et que ça dure assez longtemps, si vous n'êtes pas persévérant, ça ne va pas le faire. Et en fait, la vie de ce monde, c'est le chemin large. Est-ce qu'il y a besoin de persévérance pour être dans le chemin large? Non. Pour ça que les gens se portent bien sans être persévérants autour de nous. Mais nous qui sommes sur le chemin étroit, si nous n'avons pas la persévérance, on n'y arrivera pas. Et puis la deuxième chose qu'on doit se rappeler, c'est écouter l'enseignement. L'apôtre Paul, qui aimait bien donner des conseils à Timothée, qui était, il appelle son enfant légitime dans la foi, c'est quelqu'un qui l'a porté spirituellement et qui l'a amené même au ministère pastoral. Hein, il lui dit ceci: demeure dans les choses que tu as apprises, c'est-à-dire dans la parole, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, c'est-à-dire de Paul. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il appelle même à un autre endroit de garder le dépôt, être persévérant, garder ce que Dieu nous a donné. Amen. Moi, je prie vraiment que l'Église passe un autre cap et que on puisse être étonné de voir ce qui se passe au milieu de nous. On ne va pas rester dans notre train-train, des bons cultes dynamiques, etc. Et puis des réunions de semaine, des week-ends d'église où il y a toujours une poignée de personnes. Les histoires de réveil dans toute l'histoire de l'Église, c'est des moments où tout le monde a commencé à se mobiliser ensemble. Les histoires de réveil nous montrent des réunions qui durent 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Les gens ne se lassent pas. Est-ce qu'on aspire à ça ou on dit, oh là là, non, ça c'est trop pour moi? Est-ce qu'on aspire à ça, mes frères et sœurs? C'est la clé pour l'avenir de l'Église. On est une bonne Église, les gens sont contents d'être là, les gens qui viennent disent que c'est une belle Église, on est content. Mais je crois que Dieu nous appelle à beaucoup plus que ce qu'on vit. Amen. Dieu nous appelle à beaucoup plus que ce qu'on vit. Mais ça passe par des décisions. Vous savez, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Et je sais que quand une équipe n'arrête pas de perdre, au bout d'un moment, ils se disent qu'il faut qu'on change quelque chose. Nous, on voit peu de miracles, on voit peu de conversions, peu de baptêmes, et on ne change rien. On continue de faire comme on fait toujours. Et je crois que chacun d'entre nous, je parle pour moi aussi, on doit dire, Seigneur, c'est quoi qu'il faut que je change? Mais pas des petits changements, des changements radicaux. Ce que je ne faisais pas maintenant, je veux le faire maintenant. Je veux prendre des décisions pour ma famille. Je veux prendre des décisions pour l'église, je veux prendre des décisions pour ma vie perso, pour mon travail, peut-être faire moins d'heures sup, prendre des décisions pour que certaines choses prennent pas trop de place dans ma vie, pour que Dieu soit la priorité. Amen. Croyez-moi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On en parlait avec les ados hier. Quand on donne au Seigneur, le Seigneur n'est pas un grand. On ne doit pas le faire pour ça, j'aurais bien dit attention, on ne doit pas donner pour recevoir. Mais quand on donne de tout son cœur au Seigneur, vous ne pouvez pas savoir comment il nous bénit derrière. Ce n'est pas les bénédictions matérielles. Mais vous allez voir comment votre être intérieur va être béni. Vous allez vivre une autre dimension dans votre vie. Vous sentir à votre place, utile entre les mains de Dieu. Il n'y a rien de plus important. Amen. On prie ensemble. Je vous invite à baisser vos têtes. Fermez les yeux, on prie. De tout mon cœur, je prie qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. De tout mon cœur, je prie que cette prédication, ces prédications sur les fondements de l'Église, elles aient un impact. Pour que dès maintenant et en suivant à la rentrée, le pasteur, le couple pastoral puisse arriver dans une église qui a posé les fondements et où ils vont pouvoir travailler pour la croissance de l'église, la croissance, continuer de travailler pour la croissance en qualité, en maturité, mais aussi une croissance en nombre. Parce qu'on veut que les âmes soient sauvées. Amen. Et on veut montrer l'exemple. On veut montrer l'exemple. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ton aide ce matin, pour le Saint-Esprit qui m'a aidé à délivrer ce message. Je prie que tu puisses bénir mes frères et sœurs. Seigneur, c'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui fais le travail maintenant par le Saint-Esprit. Merci de bénir chaque personne, chaque couple, chaque famille de cette église. Je crois que tu as un plan merveilleux pour chacun. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on est occupé par d'autres choses que ton royaume. Seigneur, que ton royaume soit à la première place. Que l'Église, que nos réunions soient à la première place. Afin que nous puissions être des témoins de l'amour que nous avons pour toi. Oui, tu nous as choisis comme une génération pour montrer ton excellence. Seigneur, merci de le faire pour chacun d'entre nous, pour moi-même, Seigneur. Encore tout ce que j'ai à faire comme progrès, Seigneur. Je suis devant toi pour que tu accomplisses des miracles dans ma vie, des transformations. Merci parce que tu veux le faire pour chacun. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.